toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpe 1 Magazine.
Francis Bompard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe professionnel avec plus de 40 ans de carrière. Vous êtes avec nous ce matin puisque vous sortez un nouveau livre, Une parenthèse infricaine. Vous êtes parisien d'origine, mais vous êtes briançonnais d'adoption et de cœur. On va en parler dans un instant. Vous êtes accompagné de Florian, qui est directeur des éditions du Fournel, qui a édité ce très très beau livre, Une parenthèse africaine, qui est sorti donc il y a quelques semaines. Et c'est une belle idée cadeau pour mettre au pied du sapin.
Tout à fait.
On a vraiment un grand plaisir d'accueillir Francis Bompard avec nous. Francis Bompard, vous êtes devenu passionné de l'Afrique. Vous avez quitté le froid des glaciers, des pentes enneigées, où vous avez photographié les plus grands skieurs pendant plus de 30 ans. Je crois que la première date, c'était en 1981 ou 88,
si je dis pas 1981, oui, en décembre 81, c'est ma première Coupe du Monde de ski.
Qu'est-ce qui vous a déjà emmené sur les pistes de ski et qu'est-ce qui vous a fait changer totalement, radicalement, de passer du froid à la chaleur?
Alors moi, petit Parisien, je partais en vacances, mes parents m'envoyait en colonie au ski tous les hivers. Donc j'ai appris à skier très tôt, j'étais passionné par ce sport. Puis il y a eu, il y en a pour certains, c'est mai 68, moi j'ai eu Grenoble 68 avec Jean-Claude Tilly, ça m'a, voilà, c'était, j'ai absolument voulu faire mon métier là, donc je suis parti pour faire moniteur de ski. J'étais assistant moniteur au Club Méditerranée. Puis j'avais une deuxième passion qui était la photo et bon an, mal an, je me suis dit que j'étais pas trop fait pour enseigner le ski, mais que j'étais plus fait pour faire de la photo. Donc, j'ai enchaîné là-dessus, j'ai rencontré des gens. Voilà, j'ai pas eu de diplôme, en fait. J'ai un diplôme de technicien agricole. C'est bizarre pour un Parisien, mais bon, ça a été quelque chose de, on dirait un passage dans ma jeunesse. Et je suis parti à 18 ans, je suis parti à la montagne. Je voulais absolument vivre tout ça de plus près pour de vrai, quoi.
Vous avez vécu 42 ans de Coupe du Monde de ski, de Jeux Olympiques. Alors j'imagine des souvenirs, vous en avez plein. Mais s'il y a un Français peut-être ou un skieur étranger qui vous a le plus marqué dans votre carrière, c'est quoi ?
J'ai réussi à... Enfin, j'ai réussi. J'ai eu la chance de pouvoir être très près des skieurs français, puisqu'on était photographe officiel de la Fédération Française de Ski. J'ai côtoyé énormément de très grands skieurs, mais... je suis plus marqué par les Français, donc entre Franck Picard, Carole Merle, Antoine Deneria, tous ceux qui ont vraiment eu une carrière. Et puis il y a eu mon voisin Luc Alphand, quoi. Je l'ai connu depuis tout petit jusqu'à ce qu'il gagne la Coupe du Monde de ski. Après il est parti dans les déserts pour rouler pour le Dakar et sur les mers aussi. Mais voilà, tous ces grands athlètes là, je les ai vraiment rencontrés. Et puis là, j'ai eu une relation assez particulière avec Alexis Pinturo parce que je l'ai emmené en safari, sur ma deuxième passion, on va dire. Et voilà, donc c'est un athlète que j'apprécie beaucoup. C'est un hormis d'être un très grand athlète, c'est un bel homme.
Donc depuis quasiment 15 ans maintenant, vous avez quitté les pentes enneigées pour aller dans les grands rendez-vous africains. C'est un voyage que vous avez fait en 2012 qui vous a donné cette passion d'aller en Afrique.
Tout à fait. Alors j'ai pas quitté les pentes enneigées parce que il fallait bien que je gagne un peu d'argent pour pouvoir le dépenser l'été en safari. Donc l'hiver, je gagnais de l'argent avec mon métier de photographe sur la Coupe du Monde et sur les Jeux Olympiques et sur tous les gros événements. Et je dépensais allègrement cet argent l'été en partant en Afrique. Donc j'ai rencontré des gens formidables là-bas dans pas mal de pays. Et je me suis plutôt établi entre guillemets au Botswana, qui est un pays incroyable, qui est peut-être le dernier sanctuaire pour la vie sauvage. Dans les autres pays de safari, on va dire la Tanzanie, le Kenya et tous ces grands pays où il y a énormément de faune et aussi énormément de touristes. Ce sont des pays qui vivent essentiellement de ça. Je dirais pas qu'il n'y a pas de tourisme en Botswana, mais c'est quand même beaucoup moins développé. Et donc on est, je dirais, plus immergé dans la nature que ce qu'on peut l'être dans ces grands parcs africains qui ont un petit côté Disneyland, entre guillemets.
C'était en 2012, ça a été une révélation pour vous. C'est quoi le clic qui vous a donné envie de vous lancer dans la photographie animalière ?
La proximité avec les animaux. En fait, on ne se rend pas compte. Maintenant, j'emmène pas mal de personnes. La réflexion des gens, c'est de dire « Mais les animaux, ils vont être dangereux, ils sont sauvages, etc. » Et en fait, Non, non, les animaux, on ne fait pas partie de leur scanner de quoi manger, ce qu'ils ont besoin. On est complètement extérieur à ça et donc il y a une proximité incroyable qui se crée. Les lions approchent très près des voitures, les éléphants aussi. Enfin, donc la proximité des animaux, c'est quelque chose qui est pour moi été frappant. Et puis le safari, c'est une vraie manufacture à émotions, quoi. On a des émotions à chaque moment parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce qu'on est immergé dans la vie sauvage, ce qui est de plus en plus difficile dans nos sociétés modernes, quoi.
Et ça vous a touché, ces animaux, et ça vous a touché au point de vous engager auprès d'associations ?
Voilà, en fait, je suis parti en 2012 avec la famille, on a fait ça, ensuite j'ai voulu absolument repartir, et puis bon, normalement j'ai organisé après des safaris pour les photographes, et il fallait faire qu'il y ait, enfin, on sent très bien une fois qu'on est là-bas, et ou qu'on n'y est pas, quand on est en Europe, mais une fois qu'on est là-bas, on sent très très bien que voilà, c'est quelque chose qui est très très fragile et qu'il faut protéger, donc il est utile de faire quelque chose. J'ai réussi à contacter des gens à la mairie de Chambéry, qui est la ville des éléphants, puisqu'il y a la fontaine des 400 culs, pour qu'on essaie de faire une exposition. Ils ont répondu tout de suite, ils étaient d'accord, donc on a fait une première exposition, et de cette exposition, on s'est dit qu'accrocher juste des photos, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Et donc, on a essayé de récolter des fonds. Et donc, on a récolté de l'argent. Et ça fait 7 ans qu'on fait cet événement qui s'appelle Elephantesque. Et on récolte des dons, on récolte de l'argent, on édite des calendriers et des livres, grâce à Florian. Et on vend tout ça au bénéfice d'ONG qui bossent pour la protection de la nature. Donc depuis 7 ans, on a réussi en gros à verser à peu près plus de 40 000 euros, soit au WWF, soit à une autre ONG qui s'appelle IFO, qui est une ONG mondiale et qui a beaucoup d'opérations sur le terrain.
Une parenthèse africaine, ce sont des photos extraordinaires. J'invite les gens à aller sur Google, de taper Francis Bompard, de découvrir des photos tout simplement incroyables. On va l'ouvrir puisque nous avons un livre qui est juste là. Vous allez le dédicacer et on va l'offrir aux auditrices et aux auditeurs. Ça va être un cadeau vraiment, vraiment fabuleux. Je vous invite à aller découvrir ces photos. C'est tout l'inverse, votre technique, votre façon de travailler, où on est sur à peine une seconde le passage d'un skieur, il faut aller très très vite. Et là, c'est des heures, des semaines, des jours d'attente et de patience, c'est tout l'inverse.
Alors je dirais que c'est l'inverse et en même temps, il y a énormément de techniques qui sont communes parce que c'est de l'attente, etc. Par contre, quand l'action se déclenche, quand le guépard commence à courir, quand le lion essaye d'attaquer un buffle, quand l'impala se met à sauter, il faut être très réactif. Et je dirais que c'est à peu près la même technique que ce qu'on applique quand les skieurs passent. Il n'y a pas une énorme différence à propos de ça. Il faut être vraiment réactif. Il faut avoir l'œil dans le viseur. Il faut être concentré sur ce qu'on fait. Et je pense que c'est la même chose pour le ski.
Vous êtes ambassadeur pour des marques de photos, des grosses marques. Pour vous, la technique, le matériel, c'est important au bout de 40 ans où on peut encore facilement, avec un petit appareil photo, faire de belles photos?
Alors, bon, il y a eu une évolution incroyable du matériel photo. Je dirais qu'on peut faire des bonnes photos avec n'importe quel appareil. Maintenant, il y a quand même des spécificités dans ce style de prise de vue où il faut quand même avoir des téléobjectifs, il faut avoir... Il faut avoir du matériel qui soit capable de... Parce que le matériel peut apporter des avantages techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, la profondeur de champ, la vitesse, le diaphragme, etc. Parce que ça serait trop compliqué. Mais le matériel peut apporter beaucoup. On peut faire de très bonnes photos avec un iPhone, bien entendu. Avec un smartphone, bien entendu. Mais il y a quand même un avantage technique qui est apporté par du bon matériel. Après, ce qui est important surtout, c'est d'avoir du matériel qu'on connaît. C'est d'avoir du matériel. Ce que je dis toujours aux gens qui ont en workshop pour la photo, c'est l'important, c'est ce que vous arrivez à faire avec votre matériel. C'est pas ce que le matériel peut faire. Donc, il faut que vous connaissiez votre matériel les yeux fermés pour plus avoir à penser à la technique et pour pouvoir vous concentrer sur ce que votre œil voit et ce que vous avez envie de photographier, construire votre cadre, construire votre composition d'image. Voilà, ça c'est important. Il faut essayer d'oublier la technique. Donc la technique, c'est bien, ça apporte énormément de choses, mais il faut l'avoir acquise pour pouvoir l'oublier.
On a de la chance de vous avoir dans les studios ce matin en direct, Francis Bompard. C'est quoi le prochain safari? Vous repartez où et quand?
Alors normalement, je repars au mois de mai. J'ai 5 safaris qui s'enchaînent. Je rentrerai début juillet, puis après j'ai les Jeux Olympiques de Paris.
Alors justement, la transition est toute faite, les Jeux Olympiques, ça va se dérouler si tout va bien en 2030. Et justement, chez vous, vers Briançon, Montgenèvre, Serre Chevalier, j'imagine que vous êtes ravi. Et est-ce que vous allez, dans ce cas-là, remettre le pantalon de ski et aller faire des photos?
Je ne sais. Enfin, on dit, il faut jamais dire jamais, donc je ne sais pas. Mais j'aurai 73 ans en 2030, donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui seront beaucoup plus à même que moi à faire le travail que je fais. Voilà, après... Pour moi, je trouve que avoir les JO dans une région, c'est un vecteur de développement incroyable. Ça va permettre aux Briançonnais en particulier de se développer, d'avoir des infrastructures qui seront pérennes. Et voilà, je trouve que c'est une grande chance.
On retrouve Florian pour quelques mots pour conclure cette émission. Malheureusement, on pourrait discuter des heures et des heures avec vous, Francis. J'espère que vous reviendrez sur l'antenne d'Alpe 1 avec grand plaisir. Florian, juste un petit mot. C'est la première fois que vous éditez Francis Bompard ou pas ?
On a fait des calendriers et un petit livre poster aussi il y a 2-3 ans. Et voilà, mais après, pour un livre à proprement parler, c'est vrai la première fois qu'on édite Francis.
C'est une collaboration qui va durer ?
Je pense, oui, mais il y a une chose qui est très importante pour moi, parce que ce livre-là, il ne serait jamais sorti si Florian n'avait pas dit banco, quoi. C'est compliqué d'éditer un livre, de trouver des partenaires, c'est très compliqué, de trouver un éditeur qui veuille bien prendre des risques, c'est très compliqué, donc voilà, je lui en suis très reconnaissant.
Un dernier mot sur ce livre, parce que la préface, c'est Michel Simès, le docteur Michel Simès. Pourquoi Michel Simès en préface ?
Parce que Michel Simès a été le parrain de l'association Éléphantesque pendant un événement, et que c'est une personne de cœur, il est même venu, on a eu des parrains qui étaient là et qui nous avaient juste prêté leur nom. Lui, il est venu pendant le vernissage, il est venu nous aider à collecter de l'argent. Voilà, donc c'est une personne là, et quand je lui ai demandé, il m'a dit tout de suite oui. Je lui ai donné une date et à la date donnée, j'ai reçu le texte. Et donc, voilà. Et si vous lisez les mots qu'il écrit, voilà, vous voyez que c'est une personne qui est profondément touchée par la nature, qui aime beaucoup les éléphants, qui aime beaucoup l'Afrique. Et donc, voilà, ça découlait de source c'était super gentil de sa part et j'étais très content qu'il puisse me faire la préface.
Ce livre, vous allez pouvoir le gagner, une parenthèse africaine, des photos avec des écritures, votre plume également est présente dans le livre. Francis Bompard, préfacé par Michel Simès. Alors Florian, on revient sur, parce que vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin, déjà ce premier livre, et puis revenir sur deux livres que vous venez juste d'éditer. Georges Nominé, 1947-1972 de Bruno Tonia Lerelli. Un mot sur ce livre?
Alors, Georges Nominé, ça a été un peu quelqu'un qui a révolutionné la période des années 60 au niveau de l'accès à l'escalade et à l'alpinisme. Mmh. Il a été accompagné par Walter Séquinel, tous les plus grands. Il a fait pas mal de premières. Malheureusement, il a disparu très jeune. Donc, c'est vrai qu'il est très peu connu du public aujourd'hui. Mais Bruno Toniarelli m'a soumis un manuscrit il y a 2 ans. Et on était en train de discuter un soir avec... Jean-Paul Zuanon au bureau quand on a sorti le livre sur Coolidge à l'époque. Et en fait, Jean-Paul Zuanon le connaissait très bien, Georges Nominé. Et du coup, il a approché Bruno Toniarelli avec Louis Vol. Donc Louis Vol a été président du CAF pendant de nombreuses années. Mm-hmm. Et il habite à Réautier, chez nous. Et ils se sont associés à lui pour reprendre le texte correctement, pour sortir ce livre, pour rendre hommage à Georges Nominé. Et de tous ses exploits.
Ok, un livre donc à découvrir aux éditions du Fournel et à mettre sous le sapin. Un autre livre, et on en a parlé puisqu'on l'a eu au téléphone, c'est Alice Joysten. Alice Joysten, elle a enquêté avec son mari Charles Joysten pendant de nombreuses années sur les chansons populaires et en particulier des Hautes-Alpes. C'est un vrai patrimoine musical avec des partitions, des textes écrits en français, en langue patois,
oui,
je crois.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est un très beau livre. On l'avait offert aux auditeurs et il y en avait beaucoup qui étaient ravis.
Oui.
Un mot juste sur ce très beau livre.
Ben, ça fait partie du patrimoine alpin et c'est ce qu'on se tient à faire tous les jours dans notre catalogue. La culture alpine fait partie de notre savoir, de nos connaissances et on est obligé de le transmettre et l'édition de ce livre en est la preuve.
Merci Florian, c'est des petites idées pour les cadeaux et fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les éditions du Fournel sur internet. Vous serez ravis de découvrir beaucoup, beaucoup de livres. Une parenthèse africaine. Francis Bompard, merci d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne d'Alpe 1. Un très beau livre que vous pouvez gagner ce matin au standard 04 92 52 25 25. Et on vous revoit, je l'espère, dans nos studios pour nous raconter vos 5 prochains safaris qui seront au printemps prochain. Merci à tous les deux d'être venus ce matin.
Merci.
Merci.
Toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine.